Winnet en direct
avec JC, Mona et Patricia.
Juste à se connecter avec notre cœur et c'est tout.
Radio X.
Ouais, ben, on le sait là que dans le monde, ça va pas toujours bien. Mais des fois, ça j'aime ça. Prendre un pas de recul et regarder ce qu'on nomme en anglais comme étant le big picture, la grosse image. Et ça, on le fait de moins en moins, je pense. Mais c'est important de le faire. Et notre chroniqueur, Vincent Gelozo, a souvent cette approche-là, de dire attention, et c'est ce qui fait que je mentionne qu'il est très positif. Puis que c'est quelqu'un qui... Et il me fait du bien. Vincent Gelozo, professeur à George Mason University, économiste senior à l'Institut économique de Montréal. Et là, monsieur Gelozo, il me l'a donné en plus la bonne prononciation italienne. Gelozo, c'est correct, Vincent?
Oui, oui. C'est exactement parfait.
J'aime ça, avoir le bon ton avec le bon accent. Quand on prend des pas de recul, puis c'est important de le faire, des fois, on réalise que, bon, ça va peut-être pas bien. On est peut-être dans une fenêtre déplaisante. Peut-être qu'on est dans un cycle pas le fun. Mais des fois, c'est important de regarder la forêt. Hein?
Écoute, c'est peut-être la meilleure manière de le dire. Qu'il y a une tentation naturelle chez l'être humain de vouloir porter trop d'attention à ce qui est négatif. Particulièrement de regarder les choses qui sont extrêmes et visibles. Mm. Mais les choses qui sont positives et qui font partie de notre quotidien sont beaucoup moins faciles à voir, de telle sorte même que des fois, on passe à côté de l'évident et de l'important, en fait, même pas juste l'évident, mais l'important. Puis le point que de ce que moi, je voulais parler aujourd'hui, c'est que ça fait deux années de suite qu'avec... une de mes collègues, Chelsea Follett, puis l'Institut Cato aux États-Unis, on sort une étude qui étudie un indice qui s'appelle l'indice du progrès humain, qui mesure l'espérance de vie, la scolarité, la mortalité infantile, la mortalité venant de la pollution atmosphérique, le revenu, l'éducation,
un genre de est-ce que je pourrais dire un genre de bulletin de l'humanité?
Oui, bien écoute, quand on dit « human progress » en anglais, tu pourrais dire l'épanouissement humain, ouais. La qualité de vie.
Tu sais, t'as tes matières, là, tu sais, mortalité infantile, éducation, si ça, puis là, on fait des notes, là, tu sais, on regarde, on passe ça au ping-pong. C'est un peu ça?
Exactement. Donc, l'idée ici, c'est que c'est quelque chose qui parle pour pas mal toutes les dimensions possibles de ce que tu pourrais appeler une vie qui vaut la peine d'être vécue.
Ouais.
Donc, tu sais, si je te disais... Je disais, JC ou Patricia, je vous donne un revenu qui est infini, là, pour exagérer. Mais t'es dans une santé absolument atroce puis t'as aucune alphabétisation. Tu sais pas aller. Ouais, mais ton revenu va pas aller aussi loin parce qu'il te manque d'autres dimensions d'une bonne qualité de vie. Mm. Alors nous, ce qu'on dit, c'est prenons toutes les dimensions ensemble et essayons de les mesurer. Puis il y a des méthodes statistiques pour agréger ça. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, est-ce que le progrès humain augmente? La réponse, c'est oui, de beaucoup. Donc, relativement à 1990, il est entre 33 puis 42 % plus élevé. Mais plus important encore, ce qu'on a fait, puis ça, c'est notre innovation à nous, c'est qu'on a dit, bien, on va tenir compte aussi des inégalités globales dans le progrès humain. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a... Tu peux avoir une haute moyenne, donc un score qui est important sur Terre, mais juste parce qu'il y a les États-Unis qui tirent tout le monde.
Ouais. Donc,
ben nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a dit, ben on va regarder aussi, on va tenir compte des inégalités, puis on va regarder si les inégalités de bien-être humain ont diminué. Puis la réponse, c'est oui. En fait, les inégalités de bien-être humain, là, tu prends ça, cette mesure-là, elles ont baissé depuis les années 1990, et elles ont quand même baissé de beaucoup, là.
Donc, on le sait qu'il y a des endroits que c'est pire. T'sais, c'est indéniable, on regarde l'actualité, puis on sait que, bon, probablement, mettons que si on prend l'Ukraine... La qualité de vie globale, c'est pas amélioré, tu sais, dans les trois dernières années. Mais toi, tu prends la planète, tu dis oui, mais on contrebalance. Il y a d'autres endroits où ça va beaucoup mieux. Je comprends qu'on aimerait ça que ça aille bien partout en même temps. Mais c'est une espèce de, comment je dirais, un tableau global, tu sais, pour dire l'humanité en tant que telle, elle est sur le bon chemin. T'sais, c'est un peu ça. Là.
Oui, oui. Peut-être une autre manière de le dire, c'est que la personne moyenne sur Terre, puis ça veut dire une personne, pour mettre les gens en tête, là, la personne moyenne sur Terre a fait à peu près 17 000 $. par année.
Ça, c'est, ça nous confronte à notre réalité de choyer. On comprend qu'on fait, on est plus riche que le reste. Là.
C'est ça. Puis il n'y a aucun pays européen qui arrive dans ça. Donc, tu sais, mais t'es pas dans les pays les plus pauvres sur Terre. T'es pas mal au milieu. Tu peux penser à un pays, par exemple, en voie de développement. Le Pakistan serait proche de ça. Fait que, tu sais, pas, tu te dirais pas que c'est la personne incroyable. C'est pas un niveau de vie exceptionnel. On parle à peu près 16 à 17 000 $ par année. Donc, la personne moyenne sur Terre, elle est dramatiquement en meilleure condition aujourd'hui. Donc, elle vit plus longtemps. Ses enfants ont plus de chances de survie. Sa nutrition est nettement supérieure. Ses enfants, particulièrement s'il a des filles, vont aller plus longtemps, vont aller à l'école et peut-être même aller plus longtemps à l'école que si elles y allaient, elles vont y aller plus longtemps. Il a accès à l'Internet. Il est plus politiquement libre qu'il l'était par le passé et son revenu est beaucoup plus élevé. Donc, sur toutes les dimensions, en fait, il y a eu des progrès et même les progrès sont plus forts dans les pays les plus pauvres. Donc, celui qui est... On parlait de la moyenne, mais si tu prends, disons, ben, est-ce que la personne qui était au bas de l'échelle, donc tu prends quelqu'un, disons, dans un pays pauvre comme en 1990, tu pourrais tenir compte de l'Inde,
ouais,
comme étant un pays particulièrement pauvre. Mais l'Inde a eu beaucoup de croissance économique depuis les années 90. La scolarisation a augmenté, l'espérance de vie a augmenté, la survie des enfants a augmenté, la qualité de la nutrition a augmenté, l'accès à la technologie de l'information a augmenté. Donc, tu prends tout ça, puis ce que tu as, c'est que tu réalises que sur Terre, non seulement la qualité de vie s'est améliorée, mais elle s'est améliorée particulièrement plus vite pour les plus pauvres.
Il y a, puis je te l'ai dit, puis je m'en souviens, je ne l'ai pas lu au complet, mais je vais le lire parce qu'il y a vraiment de l'info. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent, là, cato.org, C-A-T-O.org, vous retrouvez cette étude-là sur le site de l'Institut Cato. Puis je regardais, ça peut paraître bizarre, puis d'ailleurs, je vais te demander pourquoi vous avez rentré ça dans l'analyse. L'utilisation du mot inégalité, tu sais, qui a vraiment explosé dans nos langages à partir de 1954. Pourquoi, hein? Pourquoi on ne parlait pas de ça avant? Pourquoi c'est devenu une espèce de trend? C'est quoi l'utilité de ça dans votre recherche?
Ben en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se soucient de est-ce que la croissance est partagée également. Mais il y a cette espèce de tentative qui est récurrente, qui est frustrante. Et en fait, il y avait une belle émission d'une clip au 98.5 à Montréal où est-ce qu'on avait une chroniqueuse, puis j'utilise le mot généreusement ici, qui s'insurge des inégalités. Mais c'était définitivement des inégalités à l'intérieur des sociétés riches.
Ouais.
Alors que quand tu regardes globalement, donc tu prends les individus sur Terre, sur l'entièreté de la planète, les inégalités sur l'entièreté de la planète ont diminué. Et c'est comme si le point qu'on essaie de faire en disant, c'est que les gens se trompent de...
Les gens pensent que l'inégalité est en marche, là, tu sais, que plus ça va, plus on est pénalisé par les inégalités, alors que ta recherche démontre que globalement, on est en explosion depuis longtemps, là.
Oui, puis non seulement ça, mais les inégalités que les gens se soucient quand tu regardes... nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut que tu regardes tous les individus sur Terre. Il n'y a aucune raison que tu devrais dire que... Je sais que je vais irriter quelques nationalistes ici, mais il n'y a aucune raison pour dire que les Québécois comptent plus ou moins qu'une personne au Nigeria.
Ouais, ouais.
Si on veut regarder les inégalités globales, il faut regarder global, donc pas juste à l'intérieur du Québec. Mais quand on regarde, il faut tenir compte de ça. Mais en plus, nous, ce qu'on souligne dans l'étude, c'est... c'est non seulement que les inégalités sur plusieurs indicateurs ont diminué, notamment, comme je mentionnais, l'espérance de vie.
Oui.
Donc, les gens, ceux qui ont eu les plus grands gains d'espérance de vie, c'est ceux qui allaient mourir très tôt avant, qui étaient plus exposés à des maladies nutritionnelles, à des maladies de pauvreté. Et c'est eux qui ont eu des grands gains et qui ont rattrapé de beaucoup les pays développés en la matière. Et l'autre chose qu'on souligne, c'est que même à l'intérieur des pays riches, okay,
ouais,
les inégalités n'augmentent pas tant que ça. La seule inégalité qui augmente beaucoup, c'est l'inégalité de revenus. C'est le cas, par exemple, aux États-Unis. Il y a un débat à avoir sur à quel point elle augmente. Par contre, les inégalités sur l'espérance de vie aux États-Unis, au Canada, en France, en Grande-Bretagne, elles diminuent. Les inégalités d'éducation, donc le nombre d'années de scolarité qui sont complétées, est-ce que les inégalités augmentent? Non, elles diminuent dans les pays développés. Est-ce que la mortalité infantile, il y a une convergence entre les plus pauvres et les plus riches? Oui, on trouve que la mortalité infantile est mieux distribuée qu'avant. Avant, si tu étais une personne riche, tu avais des très bonnes chances que ton enfant à toi survive relativement à une personne pauvre. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment une très grande différence entre les deux.
Ouais.
L'accès à des technologies nouvelles est pas mal le même pour, surtout les technologies de l'information, pour les plus pauvres. Donc, l'idée que il y a une inégalité rampante sur Terre n'est pas soutenable pour l'entièreté de la planète, mais même à l'intérieur des sociétés où est-ce qu'on pense que c'est évident que les inégalités augmentent, il y a plusieurs aspects des inégalités qui sont plusieurs dimensions d'inégalités qui sont en fait en baisse. Et c'est peut-être le temps qu'on comprenne que la vraie chose qu'on devrait regarder, c'est vraiment le progrès humain le plus largement défini pour tenir compte de toutes les dimensions. Et là, arrêter de faire une sorte de catastrophisme qui est très ambiant, par exemple, sur les ondes de certaines émissions montréalaises.
Ben, justement, parlons-en de certaines émissions montréalaises. D'ailleurs, salut, c'est Patricia.
Comment ça va, Vincent? Patricia n'est pas là.
Patricia n'est pas là aujourd'hui.
Bon, un petit
salut, Patricia. J'allais dire, il faut que tu arrêtes de fumer.
Ben oui, lâche tes Martens.
Moi, c'est deux paquets à me lever le matin et du scotch. Ça me garde en forme.
Écoute, il faut commencer la journée en force.
Tu as parlé tantôt de la répartition des revenus et de l'inégalité dans les revenus. J'entends souvent de la part de certains chroniqueurs, certains analystes politiques, le coefficient de Gini. Est-ce que c'est une bonne mesure pour mesurer la santé d'un peuple?
Oui, ben, pour mesurer les inégalités, oui, c'est une très bonne mesure. C'est même la mesure la plus standard. Il y en a d'autres que moi, j'aime un petit peu mieux.
Peut-être le définir, là, c'est quoi le coefficient de Gini?
Ben, en gros, cette mesure-là, ce que ça dit, c'est que tu prends tout le monde, tu les mets en ligne, mais tu les mets en ligne selon est-ce que c'est du plus pauvre au plus riche. Et là, tu dis, est-ce que le premier pourcent des individus a 1% des revenus?
Ouais,
okay. Est-ce que le prochain pourcent, il a aussi 1% des revenus? Et l'idée, c'est que si le premier pourcent, il y a 1% des revenus, puis le dernier pourcent, il y a aussi 1% des revenus, tu as une société parfaitement égalitaire. Mais si seulement toutes les autres personnes ont zéro, mais le dernier gars, il a tous les revenus, bien là, tu as une société parfaitement inégalitaire.
Mm.
Fait que c'est une mesure qui est entre 0 et 1. Puis si c'est 1, c'est parfaite inégalité. Puis si c'est 0, c'est parfaite égalité.
Ce qui est théoriquement impossible.
Oui, c'est théoriquement pas mal impossible. Pratiquement, c'est impossible. Ouais. Théoriquement, c'est possible, mais pratiquement, on n'en a jamais vu des 1 et des 0. Mais tu peux avoir beaucoup de variances entre les deux pôles ici. Mais c'est très communément utilisé. Fait que si vous allez sur le site de Statistique Canada, vous pouvez chercher ça, vous allez pouvoir le trouver. Mais quand tu mentionnes ça, puis nos émissions montréalaises, je me souviens, en fait, d'une conversation il y a quelques années où est-ce que Gérard Filion était en débat avec Martin Coiteux, à l'époque, juste un peu avant qu'il se présente pour le Parti libéral du Québec. Et Gérard Filion répétait la vieille mention que les inégalités ont augmenté. Et Martin, dans toute sa sagesse et son verbe très calme, très posé, dit, bien, si tu vas prendre les données de Statistique Canada puis tu prends les inégalités de revenus après taxes et impôts, il n'y a aucun changement depuis 1976.
Ouais, je l'ai toujours dit, le problème, c'est taxes et impôts.
Bien, c'est parce que c'est une redistribution qui se fait, mais quand tu tiens compte du rôle redistributif de l'État, il n'y a pas eu d'augmentation des inégalités au Canada depuis les années 70. L'idée qu'il y a une augmentation des inégalités, c'est seulement avant taxes et impôts et transferts qui sont faits aux individus. Puis là, il y a plein de facteurs qui peuvent contribuer à expliquer ça. Mais ça veut dire que dans la consommation, dans la qualité de vie à la fin de la journée, ce que les gens peuvent consommer, il n'y a pas eu d'augmentation d'inégalité au Canada depuis les années 70. Là.
Wow! Wow.
Malgré les
crises économiques, malgré les conflits, peu importe.
Il y a des soubresauts, mais la tendance de long terme est très, très plate. Et ça, c'est encore une fois, c'est très important de souligner. Ça, c'est ce qu'on appelle le revenu post-taxe. Ça veut dire après que l'État t'aille donné tes transferts puis après que tu aies payé tes impôts. Okay? Donc, tu tiens compte de la redistribution qui est faite par la fiscalité.
Ouais.
La seule place qu'il y a une augmentation des inégalités, c'est avant impôts et transferts.
Ouais.
Et même là, l'augmentation est très concentrée dans une ou deux décennies avec une stabilité par la suite. Donc, c'est l'idée ici d'une sorte d'inégalité rampante est un peu tronquée. Puis je rajoute une petite chose que je pense le point de l'étude qu'on essaye de souligner, c'est que le progrès humain, c'est pas tant à propos des inégalités que c'est à propos de l'amélioration absolue de la qualité de vie. Puis ça veut dire, bien, largement combattre la pauvreté sur toutes ses dimensions. Puis ça veut pas juste dire que la personne est capable de se nourrir puis de se loger, mais on veut aussi qu'elle ait accès à une éducation, mm-hmm. on veut que son environnement soit propre, on veut qu'elle ait des libertés politiques, on veut qu'elle puisse vivre longtemps, on veut que ses enfants puissent survivre à la jeune enfance. On veut tenir compte de tous ces éléments-là qui font les différentes dimensions de la qualité de vie. Et nous, on dit, bien, en fait, quand tu te concentres sur la réduction de la pauvreté dans toutes ces grandes dimensions, ben, tu vas avoir un monde qui est nettement meilleur.
Ouais.
Puis si tu te concentres sur les plus pauvres, par accident, tu vas avoir moins d'inégalités.
Tu sais, j'ai l'impression que de ce temps-là, puis les gens commentent en même temps, puis c'est bien, on participe à une bonne discussion, là, mais tu sais, des fois aussi, je me demande, puis je sais pas comment vous pourriez, si vous autres, les économistes, là, mais tu sais, j'ai l'impression que le gros problème présentement, c'est un problème de paix sociale. Tu sais, il y a beaucoup de clivages, il y a beaucoup d'idéologies, de silos, de gens qui se radicalisent, tu sais, puis qui... puis ça vient jouer sur la paix, sur la qualité de vie, disons, sans jouer dans les secteurs que tu viens de nous nommer. Tu sais, c'est parce que ça serait peut-être une autre étude. Le bonheur humain, là, tu sais, c'est peut-être autre chose. Je ne sais pas comment vous pourriez faire, mais il faudrait quasiment l'intégrer dans la recherche. Tu sais.
Bien, en fait, toutes les dimensions qu'on parle ont une relation à ce qu'on appelle la satisfaction de vie. Donc, c'est implicitement inclus dans ce qu'on fait. Mais je te dirais que le malaise que les gens ont, il y a deux dimensions. La première, c'est qu'il y a des médias sensationnalistes qui constamment essayent de mettre en tête aux gens que
il y a un danger.
Qu'il y a un danger. Et c'est très différent de dire qu'il y a un danger que de dire qu'il y a des problèmes qu'on doit régler,
ouais.
mais qui est tout à fait dans notre potentiel. Le deuxième, c'est que je pense qu'il y a peut-être une raison de s'inquiéter parce que le progrès peut ralentir. Le progrès n'est pas...
Ouais.
C'est pas une certitude, le progrès. Il faut qu'on se rappelle que les gens ont confiance dans nos institutions dans la mesure que ces institutions-là se légitimisent en produisant des résultats qui améliorent. Bien, c'est là que je pense qu'il faut se dire, bien, c'est quoi la vitesse d'amélioration qu'on peut avoir dans notre vrai potentiel? Puis qu'est-ce qu'on fait présentement pour empêcher ce potentiel-là de se réaliser? Ça, c'est, je pense, la meilleure conversation qu'on n'a pas puis que beaucoup de gens ne veulent pas avoir parce que souvent, ça porte des gens tant à gauche qu'à droite dans des positions qui sont un peu inconfortables pour eux parce qu'ils doivent admettre certaines choses qu'ils font ou qu'ils défendent qui peuvent avoir des aspects plus pervers.
Merci, Vincent. C'est de l'économie, de la philosophie. C'est tout ça en même temps. C'est Vincent, je l'ose ça.
C'est toujours un plaisir.
Salut, bye. Josette avec Vincent. Toujours apprécié, professeur au George Mason University. Économiste à senior, ça c'est chez nous, ça, l'Institut économique de Montréal. 14h10, petite pause, on va aller réfléchir à ça.
Ouellet.
Vraiment dans sa coche, là.
En direct.
On fait une petite pause, puis on revient dans pas long.
Radio X.